Bonjour Monsieur Sidikou, une structure interparlementaire du G5 Sahel vient d'être créée pour mieux contrôler l'action des gouvernements. Qu'en pensez-vous ?
Il y a un mécanisme de contrôle qui ne peut que nous aider par rapport à nos relations avec les populations en particulier. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons de nouveaux alliés qui, manifestement, n'étaient pas assez informés de ce que nous faisions, de ce que nous étions. Et de ce point de vue, c'est important que le message passe aux élus du peuple, y compris au niveau local, pour repositionner, pour mieux expliquer ce que le G5 Sahel fait. Encore une fois, pour les populations, c'est cela notre souci premier.
La population reste méfiante, notamment vis-à-vis de la force militaire conjointe.
La lutte contre le terrorisme en particulier a toujours des zones grises. Il y a des accidents, il y a des problèmes. Mais ce qui est important, essentiel, c'est que nous travaillons tous à rassurer et à expliquer aux populations ce que c'est la force. Et aussi expliquer à la force qu'en réalité, établir des relations de confiance avec nos populations, nous ne le faisons pas pour les beaux yeux du Danemark ou de la France ou autre. Nous le faisons pour notre peuple. Parce que le rôle premier de la force et de tout le système, c'est d'abord de protéger les populations.
À quoi vous attribuez principalement les difficultés du G5, en tout cas de la force conjointe, à se mettre en place ? Est-ce que c'est effectivement le fait qu'il y ait un manque de légitimité, un manque de fonds, un manque de mobilisation de la communauté internationale, d'après vous ?
Je pense que la communauté internationale a été mobilisée, elle a fait des promesses. Les fonds tardent à venir, il faudra accélérer cela. Il y a quelques mouvements, mais cela ne suffit pas. Il faut des équipements pour se battre. Cela dit, la force conjointe, avec les moyens qu'elle a, va reprendre les opérations incessamment. Et parce qu'on ne peut pas se permettre non plus d'attendre éternellement que des gens viennent nous aider si cela ne vient pas aussi vite qu'on le veut. D'ailleurs, nous savons que les chefs d'État du G5 Sahel ont décidé de mettre les fonds, les financements qu'il faut à partir de 2019 de leur propre chef, des contributions un peu plus substantielles pour prendre en charge notre défense. C'est une question de dignité. C'est une question de souveraineté et nous espérons que nos amis qui comprennent tout cela nous accompagneront très vite.
Que penseriez-vous de placer le mandat de la force conjointe sous le chapitre 7 de l'ONU ?
Écoutez, c'est cela qu'appellent de tous leurs voeux nos chefs d'État. Je suis allé moi-même deux fois au Conseil de sécurité le demander. Nous sommes en relation avec différents partenaires. Nous savons que les États-Unis ont un problème avec cela pour des raisons qui sont propres à leur administration. Mais nous continuons à leur parler, nous continuons à discuter. Les États-Unis soutiennent pour le moment le G5 Sahel de façon bilatérale en accordant une somme substantielle aux cinq pays. Je crois que c'est à 511 millions de dollars maintenant. Mais aussi bien le secrétaire général des Nations Unies que les autres pays demandent cela. C'est simplement une question de responsabilité partagée. Nous ne pouvons pas demander aux cinq pays les plus pauvres au monde, pour ainsi dire, de prendre sur leurs épaules, sur leurs meilleures ressources, pour faire le travail du reste du monde.
Mais qu'est-ce que ça apporterait ?
D'abord, ça donne plus de légitimité à l'action. Deuxièmement, ça devrait donner des fonds pérennes. Quand j'étais chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, nous avions un soutien majeur des Nations Unies, parce que c'était autorisé, que ce soit en transport, en logistique, en carburant. Je pense qu'on devrait y arriver, tôt ou tard. Les choses vont bouger. Que ce soit parce qu'il y a des changements ailleurs, ou que ce soit parce que nous aurons finalement compris que c'est la responsabilité du monde de se protéger. On ne protège pas que les pays du Sahel. Laisser plonger le Sahel, c'est laisser plonger le reste du monde. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Ce sera autre chose que la Syrie ou ailleurs, parce que ça se passe beaucoup bien loin de vous.
La priorité sur le terrain, est-ce que ça reste la région des trois frontières ?
La région des trois frontières est une région à problème en ce moment. Mais vous avez vu, c'était d'abord le Nord-Mali, c'était le Centre-Mali, puis et chaque fois que les forces terroristes ont été poussées dans leur retranchement, elles ont bougé. Et donc aujourd'hui, c'est là. Mais n'oubliez pas une chose. C'est pour un pays comme le Niger, qui est mon pays à moi, enfin, que ce soit G5 Sahel. Nous avons la Libye, nous avons les trois frontières, nous avons Boko Haram, c'est beaucoup. Et je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Aucun de nous n'est épargné. Aujourd'hui, c'est les trois frontières. Demain, ça peut être ailleurs.
C'est le discours que vous tenez aux pays qui sont peut-être un peu moins impliqués parce qu'ils ont l'impression qu'on se concentre sur des territoires qui ne sont pas les leurs ?
Par exemple ?
Par exemple, on a souvent dit que la Mauritanie ou le Tchad avaient parfois eu quelques réticences à s'impliquer.
Moi, je n'ai pas eu cette impression depuis que je suis arrivé en février. Je suis quand même en mesure de dire que je discute avec les officiers supérieurs de ces pays-là, avec les chefs d'État de ces pays-là. Je les trouve là, peut-être parce qu'à l'origine j'étais militaire, je les trouve beaucoup très décidés par rapport à cela. Donc il y a beaucoup de perceptions, il y a beaucoup de... Parfois je dirais même, à la limite, qu'il y a comme une volonté de diviser. Et ça, c'est déplorable.
Merci Monsieur Sidikou.